Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Christophe Marais, qui est le directeur marketing B2B d'Adobe, je ne me trompe pas.
Allez, c'est ça. On va
dire ça comme c'est ça. Pas ça?
Si, si, c'est ça.
On s'est rencontrés, je crois, en 2012. Vous m'aviez demandé de faire une conférence pour vous, de mémoire.
Ouais, c'est tout à fait ça.
Donc, c'était il y a 5 ans, déjà.
C'était il y a 5 ans. C'est une toute première conférence qu'on a organisée à destination du marketing.
Exactement. Et donc, on est dans les bureaux d'Adobe en France. Et en fait, j'ai voulu te voir, parce que je pense que vous avez une expérience... assez exceptionnel, d'un groupe de 14 000 personnes.
Alors aujourd'hui, on est 17 000.
17 000.
On a encore grossi.
Qui a réussi à faire un shift business hyper important. Donc quand on parle de transformation digitale, souvent on parle donc de la transformation culturelle, comprendre le digital, à quoi ça sert, etc. Et puis la deuxième étape, souvent, c'est la transformation de business. C'est-à-dire, ben, il faut qu'on fasse un mouvement important et Dieu sait que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui se sont plantées dans ce domaine. Et puis, en fait, souvent, quand on voit des entreprises, des grosses entreprises, ils vous disent « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un paquebot à transformer, quel que soit le nom du groupe. » En tout cas, des groupes de cette taille-là. Et Adobe, vous n'avez pas vraiment eu le choix et vous l'avez fait avec un énorme succès. Donc, je trouve que, du coup, il y a énormément à apprendre de cette expérience, qui est un challenge pour beaucoup de marques, quand j'ai interviewé Emmanuel Vivier, donc du Hub Institute, ou Patrick Hofstetter, qui était l'ancien CDO, donc directeur digital de Renault, ils disent tous les deux, bah, franchement, j'ai pas un bel espoir pour les boîtes du CAC 40, parce qu'en fait, elles ne se transforment pas assez vite, elles comprennent pas le business, elles comprennent pas comment ça transforme, etc. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, est-ce que tu peux expliquer le mouvement qui s'est effectué chez Adobe? Comme au début, donc vous vendiez des logiciels Photoshop, Acrobat, Lightroom. Enfin, il y en a
pas à l'époque.
À l'époque, Lightroom n'existait pas. Mais donc vous vendiez des CD, donc des logiciels qui étaient mis à jour une fois par an, c'est ça, hein, sur des CD. Et vous avez transformé ça, vous avez vendu ça sur le cloud, donc avec une mise à jour en permanence. Et alors ça peut paraître être un mouvement qui est assez léger, mais qui est en fait assez profond en termes de structure et de business. Est-ce que tu peux expliquer le mouvement ?
Alors, ça semble léger, mais effectivement, c'est un changement vraiment en profondeur. En profondeur, d'une part, parce que... faut revenir un petit peu à l'époque.
Ouais.
On va parler un petit peu façon ancien combattant. 2005, 2007, il y a eu de gros changements, des grosses transformations. Le web devient omniprésent, mobile commence à naître avec le lancement de l'iPhone, qui va radicalement changer la manière que les marques vont s'engager avec leurs consommateurs. Et donc, la fonction marketing doit se réinventer.
Ouais.
D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit dans chaque décennie, il y a des transformations de grands métiers.
Ouais.
Par venir dans le détail, mais dans les années 80, c'était le bureau d'études, dans les années 90, c'était plutôt la partie supply chain, logistique, finance, etc. Et le début des années 2000, en fait, marque cette grande transformation que doit opérer la fonction marketing. À cette époque-là, comme tu le disais, nous, on vendait effectivement des produits créatifs à destination des fonctions créatives, des photographes, des designers, dans un mode plutôt licence.
Ouais.
Ça veut dire que bah, tu achetais ta boîte ou ta licence, tu l'installais et ton logiciel, en fait, il était à toi. Et il restait à toi, ad vitam aeternam.
Exactement.
Et donc, il ne bénéficiait pas forcément des dernières nouveautés, des dernières algorithmies, des derniers formats, des dernières technologies pour pouvoir le faire évoluer. Et à ce moment-là, en 2005, 2007, dans les premières parties en fait, du millénaire, il y avait énormément de nouvelles technologies qui arrivaient. Ça se chamboulait dans tous les sens. Et donc, les créatifs, les fonctions créatives avaient besoin en fait, d'être toujours à la page. Elles ont manifesté un besoin très fort en fait, de pouvoir avoir une mise à jour régulière de ces logiciels.
Ouais.
Comme tu le disais, nous, on lançait en fait, une nouvelle version tous les ans et demi, à peu près.
Ouais.
D'accord. Ce qui veut dire qu'il fallait attendre un an et demi avant de pouvoir bénéficier d'une nouvelle version et donc, à ce moment-là, de racheter une nouvelle licence.
Ouais.
La décision a été prise en fait de changer ce modèle-là à partir de, on va dire, entre 2005 et 2009. En 2009, fait important, on rachète une société qui s'appelle Omniture. Omniture, c'était une société qui était leader dans le domaine du web analytics, qui commençait à arriver. On a racheté cette société parce qu'on commençait, nous, à prendre le virage du marketing, mais surtout, on a racheté cette société parce qu'il y avait des compétences de développement dans le cloud. Et cette compétence dans le cloud nous a été utile et très importante pour pouvoir justement développer ces nouvelles plateformes qui sont devenues le Creative Cloud, Document Cloud et Marketing Cloud.
Okay.
D'ailleurs, pour la petite histoire, Omniture était basé à Salt Lake City. Et c'est là où on a installé notre campus de développement et de recherche et développement autour du cloud. On a aujourd'hui 2500 ingénieurs et techniciens qui travaillent là-dessus et qui vont travailler justement sur ce que moi j'appelle la cloudification de notre plateforme. Gros changement à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que le challenge pour Adobe, c'est effectivement de faire bouger ce paquebot et de faire en sorte que ce paquebot passe d'un mode de « je vends des licences via des revendeurs et je vends des licences directement au client final et il l'achète, il l'installe » à un mode « je propose un abonnement, donc un droit d'usage aux utilisateurs. Et ça, il a fallu que l'ensemble de la société fasse ce virage, et pas uniquement 2-3 personnes dans son coin. Je pense que c'est ça, en fait. Si je devais apporter un premier conseil, c'est faire en sorte que c'est l'ensemble de l'entreprise qui opère ce changement, et pas uniquement quelques équipes dans leur coin, sinon, en fait, ce changement.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que les entreprises, les grosses boîtes, ou en tout cas les comités de direction de ces boîtes, ils font de l'évolution à la marge. C'est-à-dire que oui, ils restent dans la tendance, ils vont utiliser le web, ils vont communiquer sur YouTube, etc., etc. Mais ils font pas des transformations majeures. Et on l'a vu, on en parlait un petit peu avant avec BlackBerry et Nokia qui n'ont pas su justement faire cette transformation majeure, c'est-à-dire qu'ils ont amélioré à la marge, mais ils n'ont pas fait cette transformation majeure. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que si tu la fais pas, et c'est compliqué de la faire, ben, en fait, tu peux en mourir.
En fait, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas forcément le changement qui est compliqué, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut l'opérer, quand est-ce qu'il faut le démarrer, quand est-ce qu'il faut prendre la décision de se dire « on change maintenant ». Dans notre cas, quand on a opéré ce changement, et quand on a décidé de changer ça, donc c'est entre 2005 et 2007 et 2009 à peu près, pendant 4 ans, il y a eu cette décision qui a été prise, tout allait bien. Notre business se portait très bien. Ça veut dire que Photoshop se vend bien, les solutions, la Creative Suite se vend très bien, on est sur des marges très confortables, on a une marge opérationnelle d'à peu près 25%, donc
tout va bien.
Arrive 2008, une année un petit peu difficile, la crise bancaire, malgré tout, tout va bien. Et c'est là en fait que Shantanu Narayen, notre CEO, a décidé de faire ce virage. Il a eu cette vision, il a osé, parce que je pense que c'est aussi c'était assez ambitieux et très audacieux de pouvoir le faire. Et il a décidé d'opérer ce virage-là. Il a surtout décidé que l'ensemble de l'entreprise allait opérer ce virage.
Ouais. Et ça, c'est intéressant, tu vois, ma toute première boss, quand j'ai commencé ma carrière, elle m'a dit, Greg, le truc qui est le plus compliqué dans une carrière, finalement, c'est de partir quand t'es tout en haut, de partir au top. Avant, en fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver ce tipping point, donc ce point d'équilibre où tu sens que t'es au niveau, t'es tout en haut, parce que tout ce qui peut se passer après, c'est redescendre. Donc, il faut te réinventer à ce moment-là. Et c'est ça qui est compliqué. Soit quitter ton job, soit réinventer le job, ou etc., etc. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Et c'est ce que, généralement, les boîtes n'arrivent pas à faire, et ce que vous avez réussi à faire, et c'est ça qui est intéressant.
Donc, c'est ce qu'a fait Shantanu avec son board, c'est d'expliquer aux analystes financiers que le changement allait également impliquer un changement en termes de business model, donc un impact sur le revenu, donc un impact également sur la marge. Il a joué la transparence. Donc, il a expliqué au marché que le chiffre d'affaires allait baisser pendant 2 à 3 ans, que la marge opérationnelle allait se réduire pour qu'ensuite, il y ait un nouveau point d'infléchissement pour repartir à la croissance positive. Et alors, le principe de la croissance positive est assez intéressant d'ailleurs, peut-être qu'on pourra en débattre plus tard. Donc retrouver cette croissance, ça avait été annoncé avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est exactement passé ce que Shantanu, avec son board, avait annoncé et avait prévu. Ça veut dire qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires. C'était tout le changement en fait, où il fallait accompagner nos clients, les consommateurs, le marché, pour accepter ce changement. Et crois-moi, ce n'était pas facile. Il y a eu des pétitions, il y a eu des, bien évidemment des communautés qui étaient contre ce changement. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, à accompagner ce changement. Néanmoins, aujourd'hui, les bénéfices proposés par ce changement sont tels que on assiste à une très forte croissance côté Adobe. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'action, elle est passée quand même de $50 à plus de $170 aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vraiment le marché l'a pris, les marchés pas financiers, mais les marchés de nos clients, des entreprises, ont accepté ce changement et on trouve les bénéfices aujourd'hui.
Alors du coup, donc, si